بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de ce sourate Al-Ghashiya, où il y a dans un premier temps la description du Qiyamah, où Allah Azza wa Jal met en garde contre et attire l'attention de chaque musulman sur cet événement important qu'est le jour de Qiyamah, qui, comme on avait dit la dernière fois, comporte plusieurs noms, et parmi les noms de ce grand rassemblement et de ce moment où Allah Ta'ala départagera les gens du bien et les gens du mal, parmi ces noms il y a Al-Rashiya. Et on avait vu la dernière fois qu'après avoir annoncé la venue de ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala décrit une première catégorie de personnes. En fait, il y aura deux catégories de personnes en ce jour. Il y aura les personnes qui étaient dans le droit chemin et les personnes qui étaient dans le mauvais chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence par ces personnes qui auront les visages humiliés. « Wujuhun yawma'idin khashi'a » comme on avait expliqué la dernière fois, préoccupés, harassés, ils brûleront dans un feu ardent. Et dans les versets qu'on a lus, on vient de lire et qu'on va essayer d'expliquer, « Tusqa min aynin aniya » et seront abreuvés d'une source bouillante. « Laysa lahum ta'amun illa min dhari' » il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Donc, c'est la première catégorie de personnes, les gens qui étaient dans l'égarement, les gens qui étaient dans l'égarement, dans l'insouciance, qui n'ont pas su diriger, qui n'ont pas su mener, pardon, leur vie comme Allah subhanahu wa ta'ala attendait d'eux. Et on a vu la dernière fois les critères de réussite dans ce monde, c'est l'argent, la richesse, l'honneur, le travail, etc., etc. Tandis que dans l'au-delà, tout ce que nous considérons comme des critères de réussite n'auront strictement aucun intérêt, et les seules choses qui seront tenues, qui seront prises en considération, ce seront les critères de iman, de foi, de confiance en Allah et les actions que chaque personne aura amenées auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la première catégorie de personnes qui auront donc ces visages humiliés, quels seront leurs sorts le jour de Qiyama? Bien sûr, ces versets n'expliquent pas toutes les punitions, tous les châtiments des gens d'enfer. Il y a juste trois versets qui parlent, qui expliquent brièvement la situation de ces gens. Et puis par la suite, on voit en par opposition aux gens du bien, à ceux qui étaient dans le droit chemin. C'est des textes qui sont totalement opposés, avec des visages épanouis. Ceux-là, on voit qu'ils vont boire de l'eau bouillante, d'autres, ils auront des sources, hein, etc., etc. Donc c'est une opposition entre les gens de l'enfer, les futures personnes de l'enfer, et les futures personnes qui vont accéder au paradis. Alors, « Tasla naran hamia », ces gens-là, hein, goûteront du feu de l'enfer. On avait expliqué, je pense, la dernière fois que ce feu a été attissé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne rouge, 1000 années jusqu'à ce qu'il devienne blanc et 1000 ans encore jusqu'à ce que ce feu devienne obscur et noir. Tusqa min aynin aniya. On vient de dire que ces gens de l'enfer seront abreuvés d'eau bouillante. Ça c'est juste l'eau bouillante. C'est après. Alors en commentaire, les Mufassirin ils disent que cette eau sera servie aux gens du Jahannam. Mais ce n'est pas une boisson qui leur sera servie lorsqu'ils le demanderont. C'est-à-dire que même dans ce genre de châtiment, il n'y a pas une relation entre la demande et l'obtention. Ce n'est pas que les gens de l'enfer auront soif, ils désireront ou ils demanderont à Allah de les abreuver et Allah Ta'ala leur donnera de l'eau. Ce n'est pas le cas. Parce que dans l'enfer, les personnes peuvent souffrir autant qu'elles peuvent, mais Allah Ta'ala ne les viendra pas en aide. Ce qui leur sera servi, c'est que cette eau sera vraiment au moment où ils ne pourront plus supporter la soif, et lorsqu'ils vont être abreuvés, cette eau aussi constituera un châtiment constituera un azab pour eux. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ. Dans cet autre verset, Allah Ta'ala explique que lorsqu'ils demanderont à boire, ils auront à boire بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. Ce sera une eau qui ressemblera à du métal fondu. يَشْوِي الْوُجُوهُ, qui brûleront, qui vont griller donc les visages. بِئْسَ الشَّرَابُ. Le Ramadan dit que c'est la pire des boissons, c'est la pire des eaux, des boissons qu'Allah Ta'ala ait pu créer. Et en commentaire, il explique que cette eau, lorsqu'il sera approché, on ne dit pas que l'eau va entrer en contact, lorsque l'eau approchera, qu'Allah nous protège du visage des gens de l'enfer, leurs visages brûleront, et la chair du visage tombera en lambeaux. La chair se détachera du visage uniquement par rapport à la proximité de cette eau bouillante qui sera servi à chaque habitant du feu de l'enfer. Alors là, mes chers frères, nous ne parlons plus de brûlure à premier degré, deuxième degré ou autre chose. C'est carrément la peau qui brûle, qui grille, et la chair qui se détache des os. C'est uniquement par rapport au fait que cette eau s'est approchée du visage de ces gens de l'enfer. Ce sont là des descriptions réelles qui nous paraissent invraisemblables. Hein? Lorsqu'Allah Ta'ala nous décrit les gens, les punitions des gens de l'enfer, tout comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les bienfaits des gens du paradis, nous devons bien comprendre que ce sont là des idées approximatives pour qu'on ait une idée, pour qu'on ait une vision globale de la situation de ces gens. Sinon, personne n'est capable de comprendre avec exactitude quels seront les châtiments de ces gens de l'enfer et par la suite quels seront les bienfaits des gens du paradis. Ce sont des choses, ce sont des notions que l'être humain ne peut réaliser. On ne peut comprendre, parce que ce sont des réalités qui dépassent notre conception des choses. On ne peut pas concevoir quelque chose qui dépasse notre entendement, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À partir du moment où je ne peux pas imaginer quelque chose, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas imaginer, c'est-à-dire une boisson, de l'eau à une telle température qui fait tomber la chair du visage. Je ne peux pas l'imaginer. Mais Allah m'explique qu'il y aura telle et telle chose. C'est normal que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas réaliser la profondeur de ce châtiment, mais je dois avoir iman dessus, je dois y croire, et en entendant ce genre de verset, nous devons demander à Allah Azza wa Jalla de nous protéger de ces châtiments. وَإِذَا دَخَلَ فِي أَجْوَافِهِمْ قَطَعَهَا. Et lorsque cette eau sera bue par ces personnes, l'eau qui entrera dans le ventre de ces gens de l'enfer, cette eau coupera les am'a, coupera les intestins, coupera l'intestin des gens de l'enfer. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Et ils seront abreuvés d'une eau chaude qui coupera, qui tranchera leurs entrailles. Donc ce n'est pas des gens qui demandent à boire, ils ont à boire. Déjà, ça s'en a compris. C'est là qu'ils seront à la limite de la souffrance qu'Allah Ta'ala les accordera cette eau, et l'eau également ne leur sera pas profitable, ce sera un châtiment en plus de ce qu'ils étaient déjà en train de souffrir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Allah Ta'ala donnera au corps humain la possibilité de supporter ces supplices. Alors que dans le dunya, que dans ce monde, une personne qui, qu'Allah nous protège, une personne qui se voit, qui se brûle la main, dont les vêtements prennent feu, je ne sais pas, à un moment donné, soit on tombe sans connaissance, parce que lorsque la douleur est trop forte, il y a une déconnexion au niveau du cerveau. C'est ça, ni'amat encore. Que le cerveau est déconnecté, que la personne s'évanouit. Ou alors, moi j'ai même entendu que lorsqu'une personne est brûlée à un membre, la personne peut mourir uniquement par brûlure au niveau d'un seul membre. Contrairement à une fracture, contrairement à une luxation ou autre chose, lorsque le feu prend dans un membre, la souffrance peut même tuer la personne. C'est ce que j'ai entendu, Wallahu a'lam. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans le akhirah, dans l'au-delà, la capacité physique du corps de l'être humain sera totalement différente. Tout comme, on avait déjà vu dans d'autres tafsirs, tout comme la grandeur de l'être humain. L'homme aura la taille de Hazrat Adam alayhi salam, dans le but que les gens du paradis jouiront plus de leur corps et les gens de l'enfer auront une plus grande surface, on pourrait dire ça comme ça, pour souffrir de tous les supplices du jahannam. Et regardez l'opposition qu'on verra par la suite. Ces gens-là ne peuvent pas avoir à boire lorsqu'ils le demandent. Il faut que vraiment ils sont à la limite, comme on a dit, de la souffrance pour avoir cette eau, et cette eau sera un azab. Par opposition aux gens du paradis, Les gens du paradis n'ont pas besoin de formuler une demande. Dans cet hadith, c'est écrit que l'homme du paradis, quelqu'un du paradis, verra un oiseau, un bel oiseau passer, et il pensera juste, j'aimerais manger de la chair de cet oiseau, et que la nourriture est présentée à cette personne immédiatement, uniquement par désir. Il n'a même pas formulé le désir, uniquement en pensant cela, Allah Ta'ala accepte son désir et Allah Ta'ala lui accorde. Et ce qu'il va manger, à chaque fois les nourritures auront une autre substance, un autre goût qui augmentera, le plaisir augmentera jour après jour, parce qu'il n'y a pas de limite, pour l'éternité. Vous voyez ? Par opposition à ces gens de l'enfer, comme on vient de l'expliquer. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que vous ne voyez pas une opposition entre le fait que ces gens sont dans l'enfer et qu'on dise qu'ils seront abreuvés d'une source bouillante? Il n'y a pas une opposition entre enfer et source. Qui dit source dit eau. Est-ce que l'eau peut jaillir de l'enfer? C'est logique ça. Je ne suis pas un grand scientifique, même pas un scientifique, ni un grand ni un petit, mais parmi les choses qu'on a pu retenir du lycée ou du collège, d'accord, c'est que l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter. L'eau éteint le feu en général. Bon, il y a bien eu le volcan qui coule dans la mer et tout, bon, mais ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, il y a une opposition entre le fait qu'il y ait une source, là c'est différent. La lave peut tomber dans l'eau et se durcir, ou alors s'il y a trop de lave, la mer peut s'évaporer un peu, mais en tout cas, ces deux corps, si on peut les appeler corps, ces deux corps ne peuvent pas cohabiter, rester ensemble, d'accord? Et là, le cas est différent. C'est une source qui existe dans le Jahannam. Et on ne parle pas d'une source de feu, c'est une source d'eau. Alors, ça, c'est quelque chose de hadith. C'est un peu philosophique, il faut essayer de bien suivre. Les ulama, ils expliquent, les mufassirin, plutôt, ils expliquent que cet exemple, le fait qu'Allah nous explique qu'il y aura une source dans le Jahannam, c'est un des nombreux exemples que nous devons intégrer pour comprendre que la logique humaine, les lois physiques que nous avons compris et qui sont utilisées dans le fonctionnement de ce dunya ne seront plus les mêmes lois qui seront utilisées dans le akhirat. L'au-delà est un monde différent. La terminologie, même les mots qui sont utilisés pour désigner des objets, des choses, des êtres vivants, c'est totalement différent. Une femme de la dunya et une femme du paradis, on ne compare pas. Un fleuve de ce dunya, de ce bas monde, et un fleuve de le paradis, on ne compare pas. Le miel, le vin, le lait, etc., etc., etc. De même pour les châtiments. Et donc, ça c'est pour les terminologies. Toutes les lois, ce qu'on appelle nous la logique, tout ce que nous considérons comme logique, dans le dunya, n'est plus cette logique de l'akhirat. C'est Allah qui décide des nouvelles lois. C'est Allah qui fixe. Comme c'est Allah qui a fixé les lois, comme on va voir dans un instant, ce ne sera pas pour aujourd'hui, hein, lorsqu'on décrit les montagnes, etc., etc., où on parle de l'apesanteur qui permet de retenir les mers, d'accord? Le fait, est-ce qu'il y a une opposition entre le fait que Allah Ta'ala permet à la mer, de rester à ce niveau, et le fait que les scientifiques ont découvert la loi de l'apesanteur? Il n'y a pas d'opposition. Allah Ta'ala à organiser, il y a des choses qu'on appelle le sunnatullah, l'organisation d'Allah. Allah Ta'ala a organisé les choses de la sorte. Allah Ta'ala a décidé qu'il y ait une attraction qu'on appelle la pesanteur qui va retenir l'eau. Mais ça, c'est la qudra d'Allah, c'est Allah qui a créé cette loi. Le scientifique, qu'est-ce qu'il pense lui? Il dit qu'il n'y a pas de Dieu, il y a la loi de la pesanteur. C'est-à-dire qu'il regarde, il ne fait que constater cette création avec un recul. Sans être inspiré par la source divine, il ne fait qu'observer une création d'Allah sans faire la relation entre la créature et le créateur. Il regarde juste la créature sans lever la tête, l'abrutit, pour voir qu'au-dessus il y a un créateur. Donc, il n'y a pas d'opposition entre le fait de comprendre la science et d'admettre l'existence d'un créateur. S'il dit que oui, s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de créateur, ce sont juste des cellules qui évoluent, ou il n'y a pas Allah qui donne la santé, il n'y a pas de Dieu qui donne la maladie, ce sont des microbes qui rentrent en contact dans notre organisme, soit par les narines, soit par la salive, soit par la transfusion de sang, ou par nourriture, je ne sais quoi, et que ce sont là des virus qui rentrent dans l'organisme, et nous avons des globules blancs qui nous défendent. Et lorsque les globules blancs ne peuvent pas faire le travail comme il le faut, parce que nos corps sont habitués aux antibiotiques maintenant. Notre corps ne se défend plus. Hein, des enfants, des bébés ont des antibiotiques. Ça, c'est quelque chose c'est inacceptable, ça. Moi, je me souviens des pays arabes, des médecins hein, qui ont été peut-être formés à l'étranger. Ils disent, ils ne donnent, c'est une parenthèse, ils ne donnent pas d'antibiotiques à un enfant. Et ici, un bébé, un mois, le docteur dit, s'il y a une petite voiture, il faut des antibiotiques. C'est-à-dire que le corps de l'enfant n'apprendra pas à se défendre. Et c'est de la cistana. Comme il y en a qui sont assistés dans d'autres domaines de la vie, le corps aussi, jusqu'à. Dans notre corps, on devient assisté. Subhanallah, on est assisté financièrement, on est assisté également, nos globules blancs ne travaillent plus. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc, force de parenthèse, on perd le fil. Pour revenir, on est en train de dire que oui. Alors le scientifique, qu'est-ce qu'il va voir lui? Il va dire que ben, c'est pas la santé, la notion de shifa n'existe pas. Qu'un Dieu qui donne la santé, la maladie, n'importe quoi. La maladie, c'est un virus. La santé, c'est vos globules blancs qui se défendent, ou alors l'antibiotique qui a fait son effet et qui a encerclé le virus et qui l'a éliminé. Lui, il ne constate que le résultat de la création. Et il ne voit pas que, mais qui c'est qui a créé la globule blanc? Qui c'est qui vous a permis de constituer ces molécules d'antibiotiques, etc., etc., etc. Au-dessus de tout ça, il y a un système qui a été mis en place par Allah Azza wa Jalla. De même la vie, la mort. Lui, il va dire que non, c'est le sperme de l'homme qui rentre à la femme, il y a l'ovulation, il y a etc., etc., etc. Il n'y a pas de créateur. Il ne fait que constater quelque chose de mis en place par Allah. Il ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ces fonctionnements. Donc, pour revenir au texte, alors donc, qu'on comprenne bien qu'il n'y a pas d'opposition entre les découvertes scientifiques, entre la compréhension d'un système physique ou autre et le fait qu'il y a un créateur. Parce que c'est Allah qui a créé ce système. Et nous ne faisons que déchiffrer et comprendre de manière partielle le système. Et maintenant, de là à faire une thèse qu'il n'y a pas de créateur, c'est un système qui a toujours existé. La grande question qui bloquera toujours philosophes et scientifiques, c'est quoi? Et ça, c'est ce qu'on a appris. Ça, c'est notre prof qui nous a appris. Prof de philo en terminale L. Mais ça vient d'eux-mêmes. Il dit la seule chose qui bloquera philosophes et scientifiques, c'est quoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Je suis d'accord, allez, vous dites une masse de gaz, etc. Mais pourquoi? À l'origine, il y a quelque chose. Pourquoi il n'y a pas rien? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose? Et pourquoi il y a plutôt il n'y a pas rien? Ça, personne ne pourra répondre. Personne. Donc, ça nous fait comprendre que dans l'au-delà, c'est Allah qui décide des règles. Il peut y avoir de l'eau. Une source d'eau dans l'enfer. Et cette eau ne sera pas évaporée ni éteinte par le feu. Et cette eau n'éteindra pas le feu non plus. Ah ben. Également, lorsque nous voyons dans d'autres textes, il y a d'autres exemples comme ça, lorsque nous voyons que dans le Mahshar, lors de la résurrection, certains hadiths décrivent que le soleil sera à une hauteur de un mile, je ne sais pas combien ça fait, pas de mile, je ne sais pas, peut-être un mètre de la tête des gens. Hein, on comprend bien que c'est là une notion qui n'est pas acceptable sur le plan scientifique. Nous voyons, nous entendons parler, nous constatons, ils disent, hein, le réchauffement climatique. Bon. Quand on voit qu'en un an, la température augmente d'un degré, quelles sont les conséquences? Font des glaces au niveau des mers, augmentent, etc., etc. Et la température augmente, et nous constatons, c'est quoi? Quand on dit que là, en ce moment, l'été à l'île de la Réunion, c'est l'été le plus chaud depuis 20 ans. Nous voyons une différence claire entre l'hiver et l'été. Entre 25 degrés et 33 degrés, il y a peut-être 8 degrés de différence, ce n'est pas grand-chose. Le soleil ne s'est pas plus rapproché, c'est 8 degrés et nous voyons la différence. Vous montez à la plaine des Caf, à la plaine de je ne sais quoi, vous êtes à 5, 6, 7 degrés en hiver et là vous êtes 33. Donc quoi, 20 degrés de différence, c'est vous passez du pull au plus simple vêtement. Donc maintenant, quand on parle du soleil qui s'approche, sur le plan scientifique, c'est quelque chose d'inimaginable. Le soleil brûlerait logiquement toutes les créatures qui peuvent exister. Mais Allah décide que le soleil se place réellement au niveau de la tête des gens, mais que les gens ne meurent pas, et que les gens ne soient pas brûlés, bien sûr, et que les gens ne soient même pas déshydratés. C'est Allah qui décide. Si Allah a décidé qu'un homme, au bout de 48 heures, qui n'a pas d'eau, meurt, et qu'un homme à 45, 50 degrés, qui ne boit pas d'eau à une heure ou deux heures, meurt, ça c'est le système mis en place par Allah dans le corps humain dans ce monde. Mais dans l'au-delà, Allah décide que l'homme peut supporter, souffre, certes, mais ne meurt pas. Parce que le gros problème là-haut, c'est qu'on ne meurt pas. Pour les gens qui seront punis, qu'Allah nous protège. Et le plus grand bonheur, la plus bonne, la nouvelle, la plus excitante pour les gens du paradis, lorsqu'on annoncera, Ya'ahl al-Jannah, la maut, il n'y a plus de mort. Les gens de l'enfer hurleront de désespoir et les gens du paradis exalteront de joie. Hada. Également, lorsqu'on dit, oui, ça c'est un exemple intéressant également, lorsqu'on dit que dans l'au-delà, les gens seront, donc, comme on vient de le décrire, avec le soleil au-dessus de leur tête, mais qu'en même temps, il y aura des gens sous l'ombre du trône d'Allah. On connaît l'intensité du soleil, on sait également que les gens seront sur une plaine. Une plaine, c'est pas la plaine d'Arafat, comme beaucoup de gens y croient, un endroit étendu, d'accord? Comment est-ce possible que sur un endroit étendu, la tarafiha iwajan wala amta, il n'y a pas de pente, ni de creux, ni de collines, ni rien pour avoir de l'ombre? Comment est-ce possible que d'un côté vous avez des gens qui sont sous le soleil et d'un autre endroit des gens qui sont tranquillement sous l'ombre? Ça aussi, ça fait partie de la qudrat d'Allah, que le soleil peut brûler des gens, mais qu'à un mètre peut-être, je dis un mètre, mais une courte distance, il y a des gens qui ne sont pas, qui ne souffrent pas de soleil. Et plus encore, lorsque dans d'autres hadiths, on explique que les gens vont transpirer, et qu'ils transpireront par rapport au quota de péché qu'ils ont emmené de leur livre de compte, d'accord? Certaines personnes auront la transpiration jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, à la taille. Certaines personnes auront jusqu'au cou presque à se noyer dans leur transpiration. Il est possible qu'il y ait une personne qui transpire jusqu'à son cou et qu'à côté, une personne ne transpire pas autant. Alors que la loi physique veut que si vous, sur un espace, sur une surface plane, je mets un liquide, le liquide se propage. Je ne peux pas, si je verse de l'eau sur cette moquette, l'eau reste comme ça et là, il y a un peu d'eau, là, il y a beaucoup plus d'eau. Ce n'est pas possible, même si je verse par vague. Vous comprenez? Ça, c'est la loi physique de ce dunya, de l'akhirat, c'est différent. Une personne peut être tranquille, ne pas transpirer, être à l'abri, et l'autre personne, pas loin, être noyée dans sa transpiration, sans que cela ne gêne l'un ou l'avantage l'autre. De même, une personne dans la tombe peut être brûlée par les supplices de l'enfer, et il y a des cas comme ça, où des gens sont enterrés dans un même kabar. Hein. Une personne qui est décédée, 50 ans après, on enterre le garçon, ou bien on enterre le mari, etc., dans une tombe, soit dans la même tombe, soit juste à côté. Pour une personne, cette tombe, peut-être pour les anciens, en général, c'est les anciens qui ont fait plus que nous, peut-être un jardin du paradis, avec la porte du paradis qui s'ouvre, cette personne jouit des bienfaits du paradis, et la personne qui est à 50 cm ou 20 cm est en train de brûler dans les flammes de l'enfer, subir les supplices des châtiments de la tombe. Tout ça, ça fait partie du qudrat d'Allah. On ne peut pas le comprendre. J'allais dire qu'on le comprenne ou non. On ne peut pas réaliser. Nous avons juste à porter iman dessus. C'est ce qu'on appelle al-iman ou bil-ghaib, la foi en l'invisible. Et ce masque-là, hein, certains ulama, ils ont traité sous la forme d'ouvrage extraordinaire de 8 volumes, un mas'ala qui s'appelle Ta'arud al-aql wal-naql, lorsqu'il y a opposition entre texte et compréhension humaine, avec beaucoup d'exemples, avec des règles à retirer. C'est un ouvrage exceptionnel. Et ces exemples nous font comprendre également que Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah Ta'ala est capable de tout. On a combien de temps? On a fait nos 30 minutes? On est à 23 minutes. On continue un petit peu, puis on s'arrête. On continue, hein? Après, au moins la prochaine fois, on peut prendre la bonne nouvelle pour les gens du paradis. Alors la deuxième chose, ça va être très rapide. Laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min jou'. Il n'y aura pour eux d'autres nourritures que des plantes épineuses, ce qu'on appelle le dhari', et qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Les Mufassirin expliquent que lorsque ces gens auront faim, on peut dire pareil, c'est pas lorsqu'il a faim qu'il aura cette nourriture. On ne peut même pas appeler ça nourriture. C'est que cette nourriture fera partie des supplices de l'enfer. Et cette nourriture, c'est quoi? C'est al-dhari'. Et al-dhari', il explique que c'est une plante qui existe dans la péninsule arabe, dans les déserts. C'est un arbre, shajaratun dhu shawk. C'est un arbre qui a des épines, d'accord? Et les chameaux mangent de ces épines. Lorsque ces épines-là sont encore vertes, les chameaux le mangent, mais lorsque c'est déjà sec, là, même les chameaux ne peuvent plus manger, d'accord? Mais là aussi, c'est pas le dhari', c'est pas cette plante qui est de ce dunya, c'est un rapprochement, pour qu'on comprenne que ce sera une plante qui ressemblera à celle qu'on trouve dans le dunya, à celle qu'il y a dans le désert. Ah, La yusminu wa la yughni min ju', comme on a dit que cela n'engraisse ni n'apaise la faim. Ce ne sont pas là des choses qui permettent à l'homme de l'enfer de voir sa faim apaisée ou calmée. Lorsqu'il le réclame, lorsqu'il l'a, ça devient un châtiment en plus des châtiments qu'il est déjà en train de subir dans le Jahannam. Alors, pour terminer ça, les Mufassirs expliquent qu'il est important de temps en temps de parler des supplices de l'enfer. C'est clair que, en général, on n'aime pas entendre ça. En général, on préfère entendre quels seront les bienfaits du paradis, qu'est-ce que l'homme aura comme récompense. On aime bien se voiler la face, même si certains ne veulent pas que certains le fassent. Mais parfois, on aimerait bien qu'on dise que dans le paradis, là-haut, on sera dans le paradis, il y aura telle chose. Mais les ulama disent qu'il faut mixer les deux. Il ne faut pas parler que du paradis, ni parler que de l'enfer. Sinon, on va se dire que ben, c'est cuit, quelles que soient les actions qu'on va faire, notre iman, nos actions ne seront jamais égales au iman des sahaba, donc on sera dans l'enfer. Non, il faut être entre Al-Khawf wa Raja, entre l'espoir en Allah et la crainte d'Allah. C'est pour ça que dans le discours, nous devons trouver une partie de tarhib et une partie de tarhib. Tarhib, c'est quoi? L'exhortation à accomplir de bonnes actions en annonçant quelles seront les récompenses. Et tarhib, mise en garde contre les supplices réservés aux personnes qui accomplissent des péchés. En même temps, on parle du paradis et donc en même temps, on parle de l'enfer. Lorsque nous voyons le châtiment de l'enfer, nous devons, un, demander protection à Allah contre le châtiment de l'enfer. Deuxièmement, en plus de demander le doua, ça ne sert à rien que je demande doua à Allah, protège-moi d'Allah, majjalna minan nar, Allah, majjalna minan nar, et quand elle finit, après, je vais en boîte. Il y a un gros problème. J'ai demandé le doua, et peut-être que le doua est accepté, mais je n'ai pas fait les actions qui me protègent. Donc, en plus de demander doua de protection, je dois faire en sorte de ne pas accomplir les actions qui m'emmènent directement vers l'enfer. Et résister aux actions qui mènent vers l'enfer, c'est quelque chose de difficile. Comme on l'avait déjà dit avant, le hadith de Jibril Salam, lorsqu'il a visité l'enfer et qu'il a vu les supplices et qu'il a vu quels sont les péchés qui mènent vers l'enfer, quelles sont les tentations qui poussent l'homme à accomplir ses péchés, qui mènent directement vers l'enfer, principalement en rapport avec l'argent, en rapport avec al-jins, avec le sexe, tout ce qui est en rapport avec les plaisirs, les passions. Lorsque Jibril a vu cela, il s'est dit que jamais un homme ne pourra éviter l'enfer, sachant quelle est la faiblesse de l'homme et comment ces choses sont attrayantes. Donc il y a un énorme effort à faire, un effort colossal à faire, et plus le sacrifice, on a déjà expliqué maintes et maintes fois, plus le sacrifice est grand, plus le contexte où nous vivons est difficile, il y a des fitnas, il y a des sources de tentation, plus on fait sabar, plus sa récompense sera grande. Comme on l'a dit à maintes et maintes reprises, on ne peut pas comparer un musulman qui habite à Mecca en face du Haram Sharif. Formidable. Chaque salat, c'est 100 000. À chaque salat, après chaque salat, il va faire un tawaf. C'est exceptionnel, ça. D'accord? Mais ça, c'est les récompenses qu'il pourra cumuler. Maintenant, en termes de contrôle de soi, de se protéger des péchés, ben, assurément, il n'aura pas de source de tentation. Sauf s'il va à Jeddah, il va chercher des bêtises. Mais pour faire des bêtises, il faut vraiment chercher. Bon, s'il va à Dubaï, il a tout ce qu'il faut. Là, c'est bon, sur un plateau. Mais une personne donc, qui habite en face du Haram Sharif, il a moins de mal à pratiquer sa religion qu'une personne qui habite à La Réunion ou qu'un étudiant réunionnais ou d'autres nationalités qui est à Paris, qui est à Bordeaux, qui est à Toulouse ou ne sait quel endroit où le fitna vient à vous. Pas besoin d'aller chercher. Vous êtes à l'université, vous êtes à l'internat, il y a tout ce qu'il faut, et plutôt tout ce qu'il ne faut pas aussi. Et donc là, résister au haram, c'est quelque chose de valeureux. Résister au haram, c'est quelque chose d'admirable. C'est un sacrifice qui est apprécié par Allah à sa juste valeur, et bien plus que sa juste valeur. Donc Allah Ta'ala nous protège, premièrement, des châtiments de l'enfer, mais avant cela, de la tombe. Et qu'Allah nous donne la possibilité de rester éloigné des actions qui mènent vers l'enfer. Et qu'Allah nous protège. Salam wa barakatuh. Et qu'Allah nous protège d'accomplir. Qu'est-ce qu'on appelle le fil? Qu'Allah nous protège le fait d'abandonner les bonnes actions qui mènent également vers l'enfer. Inch'Allah, la prochaine fois, on va essayer de développer l'autre catégorie de personnes, Et après ça, il y a un passage extrêmement intéressant où Allah Ta'ala invite l'homme, ou Allah Ta'ala plutôt fait des reproches à l'homme qui n'a pas médité sur sa création, entre autres la création des chameaux, entre autres la création du ciel, la création des montagnes, la création de la terre. Qu'Allah Ta'ala nous accepte, nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin.